Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je voudrais être une pierre du phare d'Ouessant. Une pierre dans le mur pour ouvrir l'œil et voir ce qui se passe après moi. Je voudrais faire partie du temps. Et ben voilà, l'homme qui dit ça est forcément un sacré mec. Il porte en lui des siècles de panache aristocratique, matinée de courroux flamboyants, traversée de fulgurances philosophiques et poétiques. Bref, le bonhomme à l'étoffe des héros tranquilles, revenus de tout, surtout du pire, est capable pourtant de s'émerveiller encore. Je reçois Olivier de Kersauzon, qui fait paraître de l'urgent, du presque rien et du rien du tout, aux éditions du Cherche Midi.
Europe 1.
Bonjour Olivier, il est bon le café ?
Très bon. Non, mais ça me fait plaisir de vous voir, ma jeune fille.
Ah, oh, que ça commence bien alors, cher Olivier. Cher Olivier, vous avouez dans ce livre, adolescent, l'éducation qui fut la mienne m'a superbement protégé de l'idée d'être compris. Alors pourquoi ce livre ?
Ben, c'est pas pour être compris. C'est pourquoi ce livre ? Parce que en fait, j'en devais un à mon éditeur. Et que, en fait, ça tombait assez bien sur un certain nombre de réflexions. À partir du moment, moi, je n'ai fait, dans le morceau de vie que j'ai eu la chance de traverser, j'ai été très occupé par l'action.
Ouais.
Et le vieillissement engendre que l'action diminue, même pour des raisons motrices, physiologiques, et que j'ai plus la possibilité de me retrouver dans la réflexion. C'est une série d'interrogation molle posée par quelqu'un de relativement heureux dans un monde pour lequel l'aventure va se terminer biologiquement pour lui assez vite. Et je le regrette, mais en même temps, bon.
Bon, le monde entier aujourd'hui, Olivier de Kersauzon, il est répertorié, il est googlisé. Il n'y a plus d'ailleurs. Aujourd'hui, l'ailleurs, c'est devenu un ici dans lequel il y a déjà un autre. On ne fait que changer de voisin. Le monde est partout. Alors, quand on a 20 ans aujourd'hui, on la débusque où ? L'aventure ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Mais d'un autre côté, je ne suis pas du tout inquiet pour les générations à venir. Parce que je pense qu'ils sont plus formatés physiologiquement et intellectuellement pour le monde qu'ils affrontent que nous. Et que moi, je ne m'inquiète pas du tout pour eux. Je sais qu'ils ont en eux les solutions des quotidiens à venir. Que moi, je n'ai plus tout à fait.
Comme oui, mais peut-être qu'eux n'ont pas en eux les solutions du monde justement qui était le vôtre. Hein.
Bah, peut-être aussi ça. Mais est-ce que moi j'ai les... Oui, c'est vrai. Non, mais moi j'appartiens à un monde qui se termine complètement. C'est-à-dire que entre l'enfance que j'ai eue ou que j'ai pu percevoir et la vie au Xe siècle, l'écart est assez faible en fait. Parce que quand il y a des moteurs à explosion, on en connaît l'origine. J'ai vécu un monde qui n'avait pas tellement changé. Et puis le monde qui est arrivé après, il n'a pas changé. Il a bousculé 10 fois. Quoi.
Selon vous, Olivier Kersauzon, l'aventure, la vraie, doit comporter un risque physique. Le danger est un moteur. D'ailleurs, vous dites, dans ce livre, si c'est pas dangereux, on peut y aller. Si c'est dangereux, on doit y aller. Un homme ne se connaît pas s'il n'a pas affronté le danger, s'il n'a pas cherché à le traverser.
Ça, je crois vraiment. Je sais pas si j'ai raison, mais je cherche pas à imposer un point de vue. Je le pense, c'est tout. Je pense que le danger est un concentrateur d'énergie et un fabricant d'humilité, un fabricant de l'approche de la violence qui est quand même très réelle, nous donne après une idée assez précise du comportement à éviter éventuellement. Je pense que l'affrontement du danger, on est fait pour ça aussi, c'est qu'on ne doit pas reculer. Ce qui a fait aussi progresser ce que nous sommes au sens générique du terme, l'homme, c'est qu'il a réussi à dominer tous les dangers, c'est-à-dire que les lions-tigres d'il y a 4 millions d'années ne nous ont pas tous dévorés. Les crocodiles, quand ils assistent trop, on en fait des sacs à main, quand même, tout ça. On a quand même réussi à dominer assez bien notre système, alors qu'on est un tout petit animal dont le petit de l'homme, il met 2 ans à marcher, je ne sais pas quoi, excessivement vulnérable et tout. Et je pense que notre espèce s'est assez bien débrouillée. Ouais.
Alors, en face du danger, souvent, il y a la peur. Vous qui avez tout appris de la mer auprès de Tabarly, vous qui avez remporté tant de victoires sur votre trimaran Géronimo, vous, droit dans vos bottes et fort comme un bloc de granit, bah vous avouez avoir peur du diable, Olivier de Kersauzon. Vous l'avez croisé, le diable ?
Mais, parfois. Non, mais j'ai peur du diable, c'est que c'est un peu vrai. Toutes les choses importantes de nos vies ne sont pas cartésiennes. Ce qui fait qu'on aime, qu'on pleure, qu'on chérisse ou qu'on regrette, c'est pas cartésien. C'est les dérivés forts de nos capacités d'aborder l'émotionnel. Et il y a toute une partie de ce monde où il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une face noire. Il y a quand même quelque chose de diaboliquement négatif dans l'homme au sens générique du terme. C'est-à-dire que, et on dit bien qu'il veut faire l'ange fait la bête et ainsi de suite. Il y a quand même toujours chez l'homme, dans l'espèce que nous sommes, une partie tellement noire que le diable n'est pas si loin que ça. Et d'ailleurs, lorsque les hommes se conduisent très mal, on dit qu'il y a quelque chose de diabolique. Et moi, j'en ai peur, oui.
Vous êtes né dans une famille bretonne, catholique depuis que le catholicisme existe, et vous êtes très sensible aux rites. Vous priez plusieurs fois par jour, par exemple, et vous trouvez que les musulmans ont raison de prier 5 fois par jour. Vous trouvez quoi dans la prière, Olivier de Kersauzon, vous qui semblez si bien armé pour affronter toutes les réalités du monde?
Je trouve que le rite est une concentration d'énergie. C'est pour ça que le rite est intéressant. C'est-à-dire que dans une activité qui vous entraîne, dont vous ne connaissez pas automatiquement la réalité, vous marchez dans la rue, vous arrêtez au feu rouge, c'est assez important de se concentrer sur le monde que l'on vit, où les battements de son propre cœur qu'on n'entend pas, mais qui nous poursuivent quand même. Et je crois que j'aime bien cette notion de la prière qui est une forme de concentration. Et je trouve ça bien. C'est ce que j'aime dans les religions, en fait.
Vous dites, chercher à être aimé, c'est un truc de faible. Chercher à être compris, c'est un truc d'idiot. Mais alors, vous avez cherché quoi dans votre vie pour lui donner du sens?
À me marrer, moi.
À vous marrer.
Non, à faire ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que j'ai très, très, très vite perçu la brièveté, le temps qui passe. Je me souviens encore du jour à l'école où le professeur nous expliquait le temps qui passe et brutalement, mais j'étais tout petit, c'était en primaire. Et tout d'un coup, je me rends compte que la seconde qui est passée ne reviendra jamais. Et l'enfance vous offre des moments de désespoir absolu par moment. Et ça en avait été un pour moi. Tout d'un coup, je me disais, oh la vache. Et je me vois encore, c'est le cœur serré. Car quand on est enfant, on a le cœur serré. Le cœur serré, on se dit, ce temps passe, il est passé. Et après, j'ai toujours eu, vis-à-vis du temps, l'énorme respect de l'occuper de façon la plus agréable, la plus intelligente possible. Donc, quand je dis marrer, c'est un terme générique. C'est que faire des choses qui m'intéressent, oui.
Vous savez que, vous le savez certainement, le mot qui revient le plus souvent dans ce livre intitulé « De l'urgent, du presque rien et du rien du tout », c'est le mot « projet ».
Ben oui, parce que si on n'invente pas demain, demain va être merdique.
Europe 1. Alors, on va inventer demain, et puis on va inventer d'ailleurs l'heure qu'on a face à nous, magnifique. Un petit peu de folie, d'humour et de transcendance. On fait une pause très courte avec Olivier de Kersauzon qu'on retrouve tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit Olivier de Kersauzon.
Olivier de Kersauzon, à votre naissance, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur la planète. Il y en a aujourd'hui 7 milliards 700 millions. Donc le monde a rétréci, mais surtout il a radicalement changé. Vous dites... On m'a élevé pour faire la guerre. Vous écrivez ça dans ce livre. On m'a pas élevé au raisonnement. Mes frères et moi étions là pour être dressés à coups de cravache ou de fouet, comme dans les autres familles. Il n'y a pas eu beaucoup d'enfance heureuse dans le monde de l'après-guerre où vous avez grandi?
Je pense que les gens avaient été secoués par la guerre quand même. Et que les adultes qui nous élevaient, ils avaient autre chose à faire, à reconstruire, à penser, à gérer. D'abord leurs propres blessures, les gens qu'ils avaient perdus, les chagrins qu'ils devaient gérer. Et puis nous, on était une vie nouvelle qui arrivait dans un monde et il fallait qu'on se débrouille. Il n'y avait pas la mentalité d'être toujours penché sur les éventuels problèmes qu'on pourrait avoir. Quoi. Le monde des bisounours n'existait pas vraiment.
Il paraît par exemple que vous n'avez jamais eu de discussion avec votre père.
Non.
Jamais.
Ben non. Comme ça.
Vous avez tenté.
Assez peu.
Vous avez vite compris qu'il était étanche, c'est ça?
Non, mais il y avait un clivage énorme entre les générations, puis c'est tout. Les enfants, ils étaient élevés ailleurs. Quoi. Et puis rien ne me choque de tout ça. Moi.
Non, vous en avez bien profité d'ailleurs. Mais par exemple, l'amour maternel, Olivier de Kersauzon, lui aussi était, on va dire, refroidi par la guerre?
Non, ma famille nombreuse de 8 enfants, l'amour maternel, avec mon frère et moi, quand elle nous foutait la paix, on était contents.
En fait, vos parents élevés comme on dressait les enfants en 1870.
Oui, mais c'est un peu vrai, mais je crois qu'il y a plein de gens qui ont été élevés comme ça. Moi, je me rappelle des collèges dans lesquels on était. On était tous à peu près élevés comme ça. L'après-guerre, le monde à reconstruire, pas de pleurnicherie, la notion du manque, la notion de privation et la notion d'être content tout le temps, parce que c'était, il y avait de quoi être content, parce que la guerre était
parce
finie.
Parce qu'on était en vie.
Et on était en vie, donc tout était bien. J'ai toujours, moi, vécu comme ça, en pensant que tout va bien. Pour que ça aille mal, il faut vraiment venir à plusieurs, quoi. Non, mais c'est vrai, en plus, tout va bien. Attendez, à partir du moment où on a mangé à sa faim, et là où vous dormez, il pleut pas, c'est quand même vraiment pour moi le début du bonheur. À partir du moment où on place le bonheur à ce point-là, l'ensemble de la vie est assez agréable.
Ne peut être que de très belles surprises, effectivement.
Exactement. Vous vous rendez compte, là, je suis en face de vous, il pleut pas, et j'ai bu un café. La vie est belle, non?
Alors, rien n'était en couleur quand vous étiez petit, Olivier de Kersauzon. Ni la télé, ni les photos. Les villes étaient pleines d'immeubles éventrés, et dans les campagnes, on labourait avec des chevaux. Mais votre chance, c'est d'avoir grandi en Bretagne, face à la mer. Et cette vie tissée de nature, elle a été pour vous un trésor, c'est ça?
Oui, moi j'ai les grandes vacances, hein. C'était bien. Le reste du temps, c'était merdique. Mais les grandes vacances, c'était
parce que vous
bien.
Étiez à l'internat,
c'est ça? Ça durait trois mois.
Ah oui, à l'époque, les grandes vacances, trois mois.
Trois mois, on nous foutait la paix, trois mois. C'est formidable. J'ai adoré ça. Et j'ai décidé, après, quand je suis devenu à peu près grand, que la vie allait ressembler à des grandes vacances. Je n'allais pas accepter qu'on me pollue le temps de ma vie, quoi. Donc j'ai pris plein de risques. J'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. Et j'en ai fait à peu près qu'à ma tête pendant les 60 et quelques années qui ont suivi le...
Et vous continuez.
Ouais, bah évidemment. Non, bah, mais évidemment. Dans le sens, mais quand je dis faire comme un test, c'est pas du tout par... c'est essayer, puisqu'on pouvait le faire, puisqu'on est vivant, de choisir le mode de vie que j'avais, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit les risques. Voilà, c'est ça.
Pourquoi dites-vous que sur les 8 enfants de votre fratrie, vous étiez celui qui posait des problèmes?
Bah, je sais pas, c'est ce qu'ils disaient eux. Moi, j'étais... je tendais l'oreille comme ça parfois, c'était... Je pense que j'étais différent, mais bon, c'était différent parce que tous mes frères et sœurs ont fait des études vachement brillantes et tout, et moi j'étais vraiment le cancre et tout, mais bon.
Qui battait des records. Bon, en tout cas, pour rester sur l'enfance, on imagine mal aujourd'hui, Olivier de Kersauzon, une fratrie de jeunes enfants, des garçons et des filles, hein, partir de nuit à la pêche au lançon sans un adulte. En fait, c'est la nature qui vous enseignait la vie.
Complètement, mais enfin les adultes, ils avaient autre chose à foutre dans l'après-guerre que de s'occuper de nous tout le temps. Mais
un minimum quand même.
Mais nous, on était dégourdis, quand même. On n'était pas complètement
parce
abrutis.
Que vous étiez des petits Bretons vivant au bord de la mer, donc autonomes.
Ce qu'on faisait, tout le monde le faisait. C'était pas anormal. Il n'y avait pas d'adultes à nous couver en permanence. Les adultes, ils avaient autre chose à foutre. Quand même. C'est incroyable ce côté où il faut à tout prix. Les pauvres chéris, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils n'arrivent rien du tout.
Non, mais quand toute une progéniture disparaît au cœur de la nuit pour aller pêcher au lançon, j'imagine. Enfin, c'est. Voilà. Ma réaction de maman.
Ma réaction de maman.
Alors, Olivier, à quel âge avez-vous commencé à naviguer? Et comment d'ailleurs?
La première fois que j'étais sur un bateau, ouais. C'est en 49, entre le port de Lokirek et le port de Lokemo. Voilà. J'ai 5 ans.
5 ans?
Ouais.
Et vous avez...
Il n'y a pas de bateau à l'époque.
Vous avez compris que c'était une vie qu'on pouvait envisager loin de la Terre. C'était un amour immédiat.
Ouais, j'ai adoré. Vous savez, dans l'enfance, parfois, on voit passer, je pense que c'est la même chose pour vous les femmes. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vu parfois passer des femmes très belles et j'avais un coup au cœur. Et je pense que parfois, dans l'enfance, on voit des êtres qui vous font un coup au cœur quand on est petit. Je sais pas quoi. Eh bien, moi, petit, quand j'étais embarqué sur ce bateau-là, j'ai un coup au cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai adoré ce monde. Et j'y étais heureux et bien. Et voilà, c'est tout. Et après, j'ai cherché... comme tous les idiots, à prolonger mon enfance. Et ça a marché.
Mais alors tout de même, fallait avoir un sacré amour de la voile quand vous étiez scout marin, Olivier de Kersauzon, pour accepter, par exemple, j'ai découvert ça, les coups de fouet que prescrivait le chef de quart quand vous ratiez une manœuvre. Dans les années 50, chez les scouts marins, l'enseignement de la navigation fonctionnait au coup de fouet.
Mais parce que c'est une vieille tradition. Le fouet... Mais non, mais attendez. Arrêtez de hurler.
Expliquez-nous.
Il y a une très vieille tradition maritime du chat à neuf queues sur l'équipage. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire le martinet, quoi.
Ouais, même dans les chansons de marins, adieu cher camarade, il faut aller à bord, il faut virer le guindeau, je ne sais pas quoi. Dans la marine nationale, le quartier maître fouettait les marins pour qu'ils y aillent, il faut leur donner de l'énergie, quoi. On tapait sur les gens, comme à cheval, on donnait un coup d'éperon pour faire aller plus vite et tout. Pareil, c'était comme ça.
Pareil.
Mais, et c'était une très vieille tradition maritime dont, à l'époque, les scouts marins voulaient ressembler aux traditions maritimes. Ça, c'était pas gênant. Le tout, il fallait bien manœuvrer. Mais non, mais surtout, il faut se reporter dans ce monde où il n'y a rien. L'après-guerre, tout le monde a oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. La fin des rationnements, c'est en 52, 8 ans après la fin de la guerre, quand même. Il n'y a rien. Tout le monde se reconstruit à peu près les vies qu'on peut, avec de la joie, et avec du dynamisme, avec de la force. Ce n'est pas ridicule du tout. Donc, à l'époque, ça paraissait de bon ton de faire ça. Bon, ça n'a pas dû durer longtemps, mais j'étais parti de... J'avais quitté les scouts depuis longtemps.
On retrouve tout de suite Olivier de Kersauzon.
Jusqu'à 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Olivier de Kersauzon se raconte au micro d'Isabelle Morizet cet après-midi. Son parcours, ses souvenirs, réunis également dans un livre.
C'est mieux qu'un livre. C'est une éthique de vie. La philosophie d'un aventurier qui n'a jamais eu peur de ses peurs. Un immense marin, un homme libre, Olivier de Kersauzon, qui publie au Cherche Midi de l'urgent, du presque rien et du rien du tout. D'ailleurs, il y a quoi derrière l'urgent, Olivier ?
L'urgent, il est urgent d'être content. Il est urgent de savoir qu'on est vivant. Il est urgent de, plutôt que de penser à se plaindre, à se penser à se réjouir. Tant qu'on n'est pas mort, tout va.
Alors, on replonge dans ce livre. Vous avouez dans ces pages, je ne connais pas mes frères et mes sœurs. Je suis vite parti en internat. Mais ensuite, Olivier de Kersauzon, vos vies d'adultes ne vous ont pas laissé le temps ou peut-être l'envie de vous découvrir ?
Ben non, moi j'étais parti en mer à 20 ans et quelques, donc on ne s'est pas connus, non ?
Vous n'êtes pas connus ?
Non, mais c'est comme ça, il y a plein de gens qui ne sont pas connus, oh là là. Arrêtez de croire que
non, mais une fratrie, en tout cas, dans cette fratrie de 8 enfants, tous très bretons, est-ce qu'il y a eu d'autres tempéraments d'aventuriers ou peut-être d'aventurières ?
Non, j'avais un frère qui était officier de marine, qui était terminé amiral, patron du renseignement militaire, qui était un mec très marrant, on a ri ensemble, vous ne pouvez pas imaginer. Il parlait 7 ou 8 langues, il comprenait tout. J'ai adoré ce frère. C'est mon frère, ça a été mon frère. Comme on avait 2 ans d'écart, on faisait une famille à nous deux, parce que les autres étaient, les aînés étaient,
partis
étaient
déjà.
Loin, ils avaient 10 ans, 10 ans d'écart, 12 ans d'écart. Donc oui, j'ai adoré mon frère. Ouais. On s'est tellement marrés. Ouais, tout le temps. Quoi.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous, le fils de l'océan, bah, vous avez fait votre premier voyage en solitaire. Dans les terres, vous deviez avoir 19-20 ans et vous êtes parti en stop d'abord à Dachau. Alors Dachau, ce n'est pas une destination, c'est une rencontre avec l'histoire, avec la folie des hommes. Mais bon, vous qui vous méfiez tant de l'humain, vous l'avez vécu comment, ce passage, cet arrêt-là ?
Ah ben, j'avais compris, les parents ne voulaient pas qu'on parle de la guerre quand on était petit. Tout le monde voulait oublier. Et nous, on avait un oncle qui s'était évadé de Ravaruska, qui avait subi toute la guerre, qui avait été prisonnier en Pologne et tout ça, et qui était un individu d'une intelligence extraordinaire, exceptionnelle. Et en fait, quand on avait 13-14 ans, il nous parlait des camps. Et moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu aller voir. Et j'ai vu.
Et vous êtes parti seul pour aller voir.
Et j'ai compris qu'il ne fallait pas leur faire confiance. Voilà. J'ai compris qu'on vivait dans un monde...
À l'humanité.
Ouais. Ah ben, quand vous êtes sur place, vous dites putain... Ouais, ça m'a vraiment bouleversé au sens que j'ai vraiment compris que la nature humaine était capable de l'horreur, quoi, et que le comportement social, il fallait quand même se tenir un peu à l'écart. Quoi, c'est pour ça que j'ai toujours été, après, comment dirais-je, très suspicieux vis-à-vis de l'embrigadement, parce que les horreurs arrivent à cause de l'embrigadement. Mmh. Hein ? Notre pensée est faite pour être, si Dieu veut, au sens étymologique du terme, pour être généreuse, dynamique, belle, pour construire et rêver, mais pas pour amener des merdes pareilles. Attendez.
Alors, parlons de quelqu'un, justement, qui a été un modèle pour vous, Olivier de Kersauzon. Votre service militaire, vous l'avez effectué dans un régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et il paraît que c'est Éric Tabarly en personne qui, à l'époque, a demandé que vous soyez affecté sur son bateau, Peng Duc 3. Comment et pourquoi ?
Parce que j'avais déjà couru avec lui avant. Et puis...
Le connaissiez donc déjà.
Oui. Si j'étais dans la marine, au 11e régiment de chasseurs parachutistes, je ne pouvais pas être embarqué avec Tabarly. Donc si je devenais matelot, j'étais embarqué sur Penwick. Donc j'ai réussi à switcher de l'un à l'autre parce que le DIRCAB du ministre des Armées de l'époque, qui était Mesmer, avait été dans le même collège de jeunesse que moi, donc j'avais un peu les moyens de le toucher et tout. Et
quand, oui, c'est du bon parfois les jésuites.
Et quand j'ai demandé. Non, j'avais d'abord prouvé, ce que j'avais fait tous les PM parachutistes et tout ça, que je voulais servir mon pays. Mais comme il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de guerre, je servais mieux mon pays en allant naviguer. C'est ce que j'ai fait.
Oui.
Avec enthousiasme. Hein. C'est des années heureuses.
Alors, ouais. Des marins talentueux, vous en avez croisé beaucoup. Vous dites qu'aucun n'avait l'épaisseur de Tabarly. Elle était faite de quoi, cette épaisseur?
Je ne sais pas, justement. De temps en temps, on rencontre chez nos contemporains un espèce de qualité extraordinaire que j'appelle la vision. Et Tabarly avait une vision réelle. C'est-à-dire que dans un métier, dans un monde et un métier où tout se base sur la tradition, il n'y a pas plus traditionnel que la marine, c'est l'expérience qui fait la marine. Tabarly, lui, se promenait capable de confisquer cette expérience et en même temps capable de regarder tout d'un œil complètement neuf. D'où les inventions des bateaux, le premier déplacement léger en course digne de ce nom, Penduic 2, le premier trimaran Penduic 4, le premier...
Tout ça parce qu'il a beaucoup inventé, beaucoup créé.
Tout le temps, il n'a fait, qu'inventer. Ah ben oui, c'est incroyable, il n'a fait qu'inventer. Il avait suffisamment une synthèse de ce milieu pour être capable d'inventer. Pour inventer, il faut avoir compris et connaître. Il connaissait, il avait compris, il pouvait inventer. Incroyable.
Et donc la technologie actuelle est partie de beaucoup de ses idées, en fait.
Ah ben oui, attendez, entre Penduic 4 fait il y a 50 ans et un trimaran moderne, il y a des écarts. Mais entre-temps, Tabarly avait fait un foiler il y a 25 ans. Ça a
oui, ce qui permet aux bateaux presque de voler au-dessus de l'eau, n'est-ce pas?
Il avait tout fait, Eric. Il avait tout fait. C'était vachement intelligent. Mais il y a assez peu de gens qui ont ce sens de ce que va être le futur. Oui.
Alors, pendant 8 ans, vous avez été son second. Tabarly ne disait rien, n'expliquait rien. Mais en fait, il avait une façon exemplaire de faire, c'est ça?
Ouais,
il fallait
oui.
juste le regarder faire.
Ben oui, avec ça. Oui, non, c'était vachement bien. Il ne donnait pas d'ordre, Eric. Il disait, bon, on va faire ça. Hop, on faisait. Voilà. C'était vachement bien.
Alors, c'est extraordinaire parce qu'en préparant cette émission, j'ai appris que le tout premier tour du monde en solitaire à la voile a été réalisé par un Canadien qui est parti en 1892 et qui est arrivé 3 ans plus tard. Ensuite, on peut parler d'Alain Colas sur Manureva, qui a mis 169 jours avec une halte de 1 mois en Australie. Lui, il était parti le 8 septembre 73. Vous, Olivier de Kersauzon, en 88, vous avez réussi à descendre le record à 125 jours, malgré 2 escales techniques obligées. Et puis en 2017, eh ben, les bateaux étant tellement légers et volant au-dessus de l'eau, on a parlé des foils à l'instant, le record établi par Gabart est de 42 jours. Voilà, c'est presque plus de la voile. C'est presque de l'aviation aujourd'hui, Olivier de Kersauzon.
Non, c'est de la voile. C'est de la voile, mais c'est aussi un maillage météo du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez dans le monde, vous avez une idée très précise et très exacte d'où il faut aller ou d'où il ne faut pas aller, parce qu'il y a une couverture météo réelle partout, des satellites de tous les côtés. Donc, ce n'est pas le même métier non plus. C'est moi, quand j'ai fait ça, il n'y avait pas de météo, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Quoi. C'était l'expression vulgaire, mais assez maritime. C'était la bite et le couteau, voyez-vous, mademoiselle.
On va terminer ce petit talk sur cette formule, cher Olivier. Il s'en étrangle. On fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Olivier de Kersauzon.
15h34 tout juste, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de son entretien avec un amoureux des grands espaces. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Je reçois un immense marin, homme d'esprit et d'aventure, dont la vie, comme les pensées, ont du panache. Olivier de Kersauzon fait paraître au Cherche Midi de l'urgent, du presque rien, du rien du tout. Olivier de Kersauzon, il y a une temporalité particulière quand on navigue seul en mer. Le temps en mer offre des vies en plus. Il y a une distorsion du temps qui s'allonge.
Oui, mais même en équipage. Le monde maritime donne une distorsion réelle du temps. Ouais, c'est, le temps n'a pas la même... Le même écoulement, les journées ou les secondes et les minutes, c'est pas la même chose. Mais ça peut être agréable, et c'est agréable dans l'ensemble.
Ah, j'imagine. Mais pourquoi dites-vous, j'ai davantage couru en solitude qu'en solitaire? La solitude, c'était la promesse bénie de la navigation en solitaire, en fait.
À l'époque, oui. À l'époque, dans ces années, quand moi je faisais le tour du monde, c'était de la solitude complète, quoi. C'était, y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS, il y avait... Le bateau, la nature, le parcours et moi. Quoi. Il n'y avait pas de météo non plus. Donc, c'est une sensation de solitude réelle, mais simple. Enfin, moi, j'aime bien. La solitude choisie, c'est quelque chose d'agréable. C'est
choisie.
C'est vrai. Voilà. La solitude. Moi, j'aime bien l'idée d'être seul. Puis la solitude vous oblige à vous connaître à fond, c'est-à-dire à connaître le médiocre et le sublime de vous. Donc, de ne pas avoir d'illusions sur soi. Et moins on a d'illusions sur soi, moins on en aura sur les autres. La notion de solitude est souvent entachée d'interrogations et d'inquiétudes. Or, tous les événements forts de notre vie sont la solitude. Quand on meurt, quand vous tenez la main de quelqu'un qui va mourir, vous avez beau tenir la main, il meurt quand même. Ça fait deux solitudes tout d'un coup, celui qui est parti et celui qui reste. Donc, il y a quelque chose de très violent. Nos vies sont violentes et la solitude se retrouve à tous les tournants violents de notre existence.
Eh bien, parlons justement de violence et de solitude mêlée. Olivier de Kersauzon, cette sensation extrême, vertigineuse de solitude, comme si vous étiez le premier homme, vous l'avez ressenti il y a 30 ans, quand vous êtes aventuré en solitaire, très au sud du pôle sud. Dans le Grand Sud, il n'y a pas d'humains, il n'y a que des animaux, et vous avez découvert un monde qui vit sans nous, un monde tel que les premiers hommes l'ont vu.
Ah ouais, ouais, c'est vachement bien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Alors, ben, racontez-nous, parce que...
Non, on
n'est pas allé au pôle sud.
La partie antarctique, c'est la partie du monde où il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de cimetière, il n'y a rien. Il n'y a eu que quelques stations scientifiques et tout.
Alors déjà, il faut expliquer qu'il faut aller au Cap Horn, et puis il faut descendre encore 3000 km plus bas,
ouais,
n'est-ce pas, pour découvrir un monde immémorial qui est d'une cruauté inouïe.
Non, mais c'est un monde qui vit...
C'est
le monde des animaux, c'est le monde avant que les hommes soient là. Et c'est vachement intéressant. Et puis c'est d'une beauté extraordinaire. Tous les gens qui ont la chance de descendre dans ces zones-là reviennent changer, parce que c'est sans innocence que dans notre ADN on perçoit ce que les premiers d'entre nous ont perçu, cette notion de densité, de vie sauvage. Et c'est là aussi qu'on voit qu'on ne sert à rien. L'homme, sert... dans l'histoire du monde, l'homme ne sert à rien. Alors, eux non plus, les pingouins, ils servent à rien. Mais ils se démerdent très bien sans nous.
Voilà.
Et c'est vachement bien. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ça.
Vous écrivez dans De l'urgent, du presque rien et du rien du tout, vous écrivez dans cette contrée, effectivement, l'homme ne sert à rien. Tout vit, se reproduit, piaille, chasse. Tout le monde bouffe tout le monde. Les baleines, les éléphants de mer, les léopards de mer, les pingouins vivent dans une odeur de sang, d'excréments, de foutre. C'est stupéfiant. J'aime ce monde qui vit sans nous.
Oui. Bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Le monde qui vit sans nous pourrait paraître plus intéressant que le monde qui vit avec nous.
Mais alors, combien de temps encore le pôle Sud va-t-il pouvoir vivre comme ça, comme au temps des origines ?
Je pense qu'il faut le faire connaître. Je suis assez opposé aux idées de sanctuarisation. Je pense que l'homme moderne peut se promener dans le sublime du monde s'il s'y promène sur la pointe des pieds. Je ne suis pas du tout sanctuarisé, Athènes, non. Allons voir, mais chut, propre. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et ça nous réconcilie avec ce monde que l'on vit. Et puis ça va aussi engendrer le respect, le développement du respect, de se rendre compte que tout ce qui nous est naturellement donné par la nature doit être infiniment respecté.
Alors, Olivier de Kersauzon, pourquoi justement, vous qui êtes si sensible à la beauté du monde, pourquoi le mot écologie, vous l'avouez dans ce livre, vous heurte-t-il les oreilles ?
Non, mais à l'époque, attendez. Nous, dans l'après-guerre, quand on se baignait, on avait le cul dans le goudron. Quand j'avais 10 ans ou 15 ans, même quand on faisait les vidanges d'un bateau, on jetait dans l'eau du port. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas du tout conscience. Et c'est en ça que je dis que les écologistes ont été excessivement utiles, parce qu'ils ont obligé à réfléchir, à avoir des comportements différents.
Alors c'est juste une certaine inquisition derrière l'écologie qui vous agace. Mais vous reconnaissez effectivement l'importance des lanceurs d'alerte et puis le rôle nécessaire qu'ils ont dans l'éveil des consciences.
Mais vital, mais nous on a eu du mal à comprendre qu'en fait, d'année en année, on trouvait ça plus propre que ça n'avait été. Mais en fait, on n'avait pas encore compris que l'énorme machine était en route et qu'on était, c'est vrai, souvent en train d'abîmer cette planète. Puis nous, on était en mer, on ne s'en rendait pas trop compte non plus. Et puis à un moment donné, on avait l'impression que c'était un peu comme tout, une sorte de mode, il fallait. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas une mode, aujourd'hui, c'est vital. On ne peut pas continuer à se conduire comme des petits cochons, c'est tout, il faut le savoir. Et je pense qu'ils ont été utiles. Justement, je dis que Hulot, on se foutait de sa gueule un peu, et après, plus du tout. On se dit, putain, ce type a fait œuvre. Pour moi, il a fait une œuvre utile. La vie de Nicolas Hulot est une belle vie. C'est une vie qui a du sens, parce qu'il a obligé les gens à ouvrir les yeux et à voir qu'on ne pouvait pas continuer à se comporter comme on se comporte. Donc c'est ça qui est vachement bien. Bon, et moi, alors... je l'ai vu tardivement. Moi, j'étais un peu comme l'idiot auquel on monte la lune. Je regardais le doigt, je disais « Oh, le doigt, il n'est pas terrible. » Voilà, c'est tout.
J'assume, Olivier de Kersauzon, hein. Question qui fâche. On le sait, effectivement, l'homme détruit la planète. Mais le climat sur la durée, le climat, c'est une affaire de cycle. Et de cycles, pas du tout à l'échelle humaine, à l'échelle de l'univers.
On voit que le climat change sur des trucs très précis. Et pour moi, l'indicateur vraiment précis, ça a été les gens pour lesquels le climat est vital. Ils jouent leur année sur la date de la vendange. Mmh. Et tous les gens du vin, ils vendangent aujourd'hui souvent 15 jours à 3 semaines plus tôt qu'ils ne faisaient. Donc c'est que... il a fait plus chaud, c'est pas quoi. Et eux, c'est vraiment des baromètres réels de ce changement. Quoi.
Voilà. Mais les scientifiques savent-ils si le climat est une affaire de cycle, réellement ?
Je ne sais pas. Mais je crois, ce n'est pas tellement de savoir si on sait, si on a raison ou pas raison. Le fait est que ça bouge, ça réchauffe, on fait quoi ? Mmh. Voilà, c'est ça, ça c'est le basique. Et il semble... plus qu'il semble que les activités humaines auraient tendance à réchauffer. Et on est, comment dirais-je, je ne sais pas si on est tout à fait apte à vivre dans un monde qui change aussi vite. Mais notre monde change beaucoup. Moi, je vois, mon père, de temps en temps, pouvait me dire des choses, des conseils, je ne sais pas quoi. Ça pouvait me servir une vie ou presque. Moi, je peux parler à mon fils, lui donner des conseils. Ça va assez vite être obsolète. Et quand mon fils parle à son fils, il sait que ça va être... Parce que l'ensemble du monde que l'on vit a l'air d'accélérer, quoi, terriblement. Et je crois qu'il faut le... Mais c'est l'intelligence humaine qui pourra le gérer. On a géré tellement de choses depuis qu'on a quitté les cavernes.
On retrouve tout de suite Olivier de Kersauzon.
Il est 15h44, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité. Olivier de Kersauzon.
Je reçois Olivier de Kersauzon, dont le nouveau livre, De l'urgent, du presque rien, du rien du tout, paru au Cherche Midi, dessine le portrait de l'homme le plus libre que le dernier siècle ait enfanté. Alors, cher Olivier, vous avez, allez, pour résumer, je veux dire, vous avez deux ports d'attache, la Polynésie et la Bretagne. Ce sont deux planètes très, très différentes. Comment peut-on aimer l'une en aimant l'autre ?
C'est pas vrai, ça se ressemble.
Alors, expliquez-nous comment la Bretagne ressemble à la Polynésie, ou l'inverse ?
Eh bien, justement, il faut connaître les deux pour le savoir. Ça ne s'explique pas vraiment. Mais moi, j'ai
vous
eu parfois...
Vous avez les mots pour.
Non, mais j'ai eu parfois à Brest des lumières qui m'ont rappelé ce Grand Pacifique. Et j'ai eu parfois, dans le Grand Pacifique, des lumières et des moments qui m'ont rappelé cette Bretagne que j'adore. Ouais, ces bords de mer ont des réserves d'enchantement tellement multiples qu'on pourrait presque les confondre par moments. Est-ce que je me suis bien expliqué,
mais très bien,
fille, hein.
Mais très bien, parce qu'on imagine toujours Brest dans le gris d'un rideau de pluie. Vous évoquez les lumières spectaculaires, justement, de Brest. Et la lumière, pour vous, Olivier de Kersauzon, ça n'est pas la clarté, c'est plutôt un mélange savant de soleil et d'ombre, c'est ça ?
Ben oui, non, mais ça s'appelle la lumière.
Ben oui, mais on pourrait imaginer que c'est la clarté. Non, c'est plus subtil que ça.
Non, mais c'est la brume dans le goulet de Brest, les couchers de soleil d'hiver, les matins de printemps, tout ce que nous réserve cette nature en bord de mer. La mer est un énorme réflecteur de la lumière. C'est pour ça que la vie en bord de mer, moi, je l'adore. Il y a un truc que j'ai noté, c'est que la plupart des gens qui habitent dans des bleds de bord de mer, ils sont fanats de leur bled. Pour eux, c'est le plus beau. Mais en fait, oui, c'est le plus beau parce qu'ils en voient toutes les lumières. Ils en voient tous les charmes. En fait, nous, on va passer à tel endroit qu'une demi-heure. Eux, ils vont être là le lundi, le mardi, le mercredi, le janvier, le février, l'avril et le juillet. Et ils vont voir toutes les lumières de la mer sur le bord de la côte. Et il y a de quoi à chaque fois être enchanté, où qu'on soit dans le monde.
Mais alors, les ciels polynésiens, qui ressemblent à des toiles bleues de clin, sans nuages, sans ombre.
On en a comme ça à Brest, mais rarement.
Non, mais vous les aimez, ces ciels-là.
Mais moi, j'aime tout. Oui, j'aime. Oui, j'aime. J'aime bien les lumières...
Ce sont des ciels de vacances.
Les lumières chaudes de ce Grand Pacifique, là, de cette espèce de mollesse tiède vachement belle, que j'adore. Aussi,
la mollesse tiède. En fait, Olivier de Kersauzon, vous avez choisi la Polynésie pour finir votre vie dans un été éternel, c'est ça ?
Ah bah oui. Pour moi, l'automne, ça sent toujours la rentrée des classes. Et à 75 ans, l'idée de rentrer des classes me fait encore peur. Donc, Ouais, j'aime bien ce monde du Grand Pacifique au soleil. Ouais, j'aime bien. Ouais.
À 4 heures du matin, paraît-il, en Polynésie, vous êtes debout.
Ouais.
Elles sont faites de quoi, vos journées?
Je sais pas, moi. Elles sont faites d'aller à la pêche, de nager, de faire du sport, de réfléchir. Voilà. Il y a plein de choses que je ne fais pas, voilà.
Mais alors, parlons de ce que vous faites. Par exemple, sur quel genre de bateau naviguez-vous aujourd'hui? Vous qui avez battu tant de records sur vos trimarans.
J'ai un bateau de pêche à moteur, un potimara, comme les bateaux que tout le monde fait en Polynésie.
Mais pas que moteur, il a une voile quand
non,
même.
Non, j'ai une voile de secours cachée dans le fond au cas où ça casse. Si, ouais, ouais.
Mais Olivier,
quoi?
Juste une voile de secours.
Ouais, ouais. Bah oui, parce que si je suis en panne de moteur, c'est bien d'avoir quelque chose pour rentrer à la maison.
Bah oui.
Non, mais si, mais je vais à la pêche. J'aime bien être à la pêche tout seul et tout ça. J'aime bien le matin partir alors que le soleil n'a pas encore surgi de l'horizon et tout. C'est des moments de bonheur absolu. J'adore ça.
Votre somptueuse épouse Sandra est tahitienne. Quand on est tahitienne, forcément, c'est naviguer.
Ben, je ne sais pas, je ne lui ai jamais posé la question.
Parce que vous ne l'avez jamais emmené sur
là,
un bateau?
Je ne veux pas être mon bateau inconfortable et tout ça. Mais ça ne me gêne pas du tout. Moi, j'aime bien aller en mer tout seul, je trouve ça bien. C'est plus facile d'être seul que d'être avec quelqu'un en mer, pour moi. À tout point de vue, d'ailleurs. Il y a des jours où si j'avais quelqu'un avec moi, je ne sais pas si je sortirais. Je trouve que la mer est trop dure ou trop, je sais pas. Tout seul, j'y vais, ce n'est pas de souci.
Alors, je parlais de Sandra. Vous dites, j'ai plus appris par les femmes que par les hommes. C'est incontestable. Alors, que vous ont-elles appris, les femmes, Olivier de Kersauzon?
Ben, plein de choses, quand même. D'abord, elles vous permettent une réelle proximité. Ensuite, vous pouvez parfois écouter des raisonnements qui vous sont complètement étrangers, mais comme l'affection vous lie, vous allez pouvoir piloter à vue de ce qu'on vous dit. Et puis après, en vous retournant dans le rétroviseur, vous voyez à quel point elles avaient eu raison. Donc, Si, moi j'ai beaucoup apprécié moi ce que les femmes ont eu la bonté de m'apprendre. Ah ouais, ça m'a rendu un peu plus humain quoi. Enfin, mais ça m'a rendu heureux surtout.
Non, dit-il c'est vrai. Avec oui, la frise.
Non mais c'est vrai parce que c'est moi j'appartiens à une génération où souvent on dit qu'on est misogyne parce que c'est nous à l'école si tu pleures t'es une fille je sais pas quoi on n'a rien à foutre c'est un autre monde ça. Mais moi j'ai toujours adoré les femmes. Moi, j'étais un de ceux qui quand Florence Artaud naviguait, qui l'a soutenait le plus, c'était un des rares patrons d'équipage de course qui a eu une fille pendant un an et quelques à bord quand j'ai embauché Marie Tabarly comme matelot.
Ah oui.
Ouais, ouais, là, si, moi j'aime bien la présence des femmes, j'aime bien.
On retrouve tout de suite l'amiral Olivier de Kersauzon.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite est fin avec Isabelle Morizet et son invité, aujourd'hui Olivier de Kersauzon, qui fait paraître aux éditions du Cherche Midi de l'urgent, du presque rien et du rien du tout.
Olivier de Kersauzon, votre mère, Jeanne, est morte à 100 ans. Elle est née dans ces années qu'on appelle la Belle Époque, avec ses calèches, ses tramways à chevaux, ses voitures à vapeur. Mais elle a vu l'homme marcher sur la Lune, envoyer des sondes vers Mars, inventer Internet, programmer l'intelligence artificielle et même envisager le transhumanisme. Tout ça, bien sûr, en traversant de grandes guerres. Ça vous irait bien, comme elle, comme votre maman, ça vous irait bien d'embrasser un siècle entier et d'être là en 2044 pour voir à quoi ressemblera l'humanité?
Moi, ouais, je suis pas contre, mais c'est pas non plus indispensable.
C'est pas indispensable?
Non. Je pense que si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Moi, je suis content de ce que j'ai eu. Je me plains de rien. Hein. Je suis pas arrivé en pleurnichant chez vous. Je suis content. Moi j'ai vu mourir des êtres jeunes, et ça, c'est une vraie insulte. Mmh. C'est quelque chose d'effrayant. Moi, j'ai quand même bien vécu, quand même. J'ai vécu assez longtemps, donc si ça peut durer encore un peu, tant mieux. Bon, mais si ça ne dure pas, ça, je regretterai beaucoup, mais enfin, je veux.
Non, mais parce que dans De l'urgent, du presque rien et du rien du tout, qui paraît au Cherche Midi, vous dites, Olivier de Kersauzon, vieillir, c'est perdre du temps. La vieillesse est l'ennemi du rêve, le début du coma. Donc, il n'y a pas une minute de chaque aube à gâcher.
Ah ouais, ah bah oui. Je pense qu'il y a un devoir de profiter et d'être content. Ce monde peut nous apporter des moments magnifiques et il ne faut pas faire le héron, il faut les prendre, il faut être content. Moi, je me suis fait, quand je commandais, je me faisais réveiller tout le temps, même si je venais de me coucher depuis une heure ou je ne sais pas quoi, au lever du jour. Parce que je trouve que c'était le début d'une belle histoire, quoi. Et maintenant que je navigue plus, je me lève avant le lever du soleil. Parce que le lever de jour, c'est pas ce qui est la formule, c'est la promesse de l'aube.
Bien sûr.
C'est extraordinaire, ah ouais, j'adore.
Mais plus précieux encore que le temps est l'instant.
Ben oui, l'instant, c'est du temps qu'il ne faut pas gâcher. c'est très important dans le sens que il faut se contenter d'être vivant. Moi, je suis content d'être vivant, voilà.
Olivier de Kersauzon, vous êtes un épicurien qui déteste la musique. Même Ravel, même Debussy, même Mahler. Vous avouez, la musique ne me procure rien, elle me gêne. C'est comme si on me salissait l'oreille.
Non, c'est un
donc
peu...
la seule bande-son, j'imagine que vous allez un peu loin dans la formule, mais tout de même, la seule bande-son à laquelle vous soyez sensible, c'est la musique du vent, des vagues, des bruissements en fait, de la nature, de la vie.
Assez, ouais. Non, mais j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Je suis étranger à la... J'en ai souffert à une époque, je me disais pourquoi ils avaient tous l'air passionnés, ils écoutaient ça religieusement, et moi, ça m'emmerdait plus qu'autre chose. Et puis j'ai pris, je dis c'est mon lot, là, j'ai pas accès à la musique, mais j'ai accès à plein d'autres choses aussi, que mystérieuses, que vous ne... Peut-être même subodorez pas, voyez-vous,
Mais certainement. Mais par exemple, existe-t-il un livre, en abordant de la musique pour la littérature, un livre qui vous ait fait voyager comme les océans vous ont fait voyager?
Oh non, 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 attendez.
ce livre.
Le livre, c'est pour s'évader. L'océan, c'est pour vivre. C'est pas pareil. Rien que le fait de regarder la mer, ça console de tous les chagrins. S'il y a quelque chose de cette immensité-là, c'est... Oh, moi, j'adore. Enfin, 90% de ce qui occupe mon cerveau comme moment de bonheur et d'intérêt est lié à ce que j'ai aimé de la mer, oui, je crois.
Alors donc, je garde la formule, le livre c'est pour s'évader, l'océan c'est pour vivre. À la lettre R de l'abécédaire autour duquel s'articule donc votre livre, ne figure pas le mot regret. Vous avez vécu très exactement la vie dont vous rêviez, Olivier de Kersauzon.
Ouais.
Vous savez que ça doit être très rare de pouvoir affirmer ça.
Non mais j'ai jamais rêvé de vie, j'étais pas là, je vais faire si... Toute la vie que j'ai vécue a ressemblé à ce que j'aurais pu rêver si j'avais rêvé. Mais je suis un homme d'action, moi, donc je suis pas...
Donc, donc vous avez entrepris avant de commencer à rêver.
Ouais. Oui, j'ai bien aimé, moi. Ouais, j'ai de la chance, énorme. C'est de la chance. D'ailleurs, je me rappelle d'Aboville, un jour, on avait parlé de ça. On avait parlé de l'effort, du risque, de l'engagement et tout. Et il m'avait dit une formule que j'avais bien aimée. Il m'avait dit, tu sais, quand on fait l'aventure... On a le devoir de le faire aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire. Et quand, je me rappelle quand Daboville m'avait dit ça, c'est qu'il débarquait de son énorme traversée du Pacifique.
Oui.
Et je l'avais récupéré avec un chalutier sur les côtes américaines. Il y avait du mauvais temps et tout. Et en fait, ça m'avait paru tellement vrai, tellement fort, tellement. Je l'avais senti, mais pas formulé encore à l'époque, ou pas suffisamment pensé.
Il l'avait formulé pour vous.
Oui. Et après, j'en ai toujours tenu compte dans l'action.
Alors, j'évoquais tout à l'heure Cyrano. Dans la pièce de Rostand, les dernières paroles de Cyrano sont « Quelque chose sans un pli, sans une tache, j'emporte, malgré vous, c'est mon panache. » C'est une grâce oubliée, une vertu d'un autre temps, le panache.
Je ne sais pas.
C'est ce à quoi on pense quand on vous regarde, Olivier de Kersauzon.
Vous êtes trop aimable, mademoiselle. C'est un peu fallacieux. Non, c'est que, je ne sais pas, je n'ai pas de rapport avec ça. Moi, j'ai de rapport avec l'enthousiasme et l'action. Ça, c'est sûr. Ce sont deux choses que je connais bien. Le panache, c'est peut-être ce qui se dégage pour celui qui regarde, mais comme moi, je ne regarde pas, je ne perçois pas votre notion.
L'enthousiasme et l'action. Alors, on ne choisit pas son nom, on ne choisit pas sa gueule, mais on choisit son âme.
Ah oui. Ah ben oui. Mais nul ne sert de conquérir le monde si on vient à perdre son âme.
Jésus-Christ.
Non. Saint Augustin. Qui n'était pas un con. Non, c'est vrai, c'est vachement important, pas perdre son âme. Ouais.
De l'urgent, du presque rien et du rien du tout. Un livre à lire, relire, ouvrir, quand parfois le temps est morose, pour un petit peu de transcendance et s'élever au-dessus de toutes les médiocrités du monde. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau Noël, peut-être polynésien, Olivier de Kersauzon.
Oui.
Il sera polynésien.
Je suis bien content de m'avoir embrassé, ça me fait plaisir.
Alors vous nous promettez, vous pensez à nous en France le 25 décembre, quand à 4h du matin, vous regarderez se lever le jour sur votre lagon turquoise. Promis ?
Je n'y manquerai pas.
À très vite.